أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous abordons aujourd'hui le deuxième cours de rencontre avec l'islam, où nous allons dans un premier temps avec le tafsir parler de la conception de l'homme en islam, et dans un deuxième temps parler en termes d'actualité de la question de l'islamophobie. Avant cela, j'aimerais rappeler à chacune et à chacun d'entre vous que nous avons lancé depuis plus d'une année maintenant le Fonds de coopération Afrique, et que nous attendons de chacun d'entre vous toujours un soutien pour que nous puissions offrir des ouvrages, des cassettes et tout matériel pédagogique à nos sœurs et à nos frères en Afrique qui en ont tant besoin et qui font chaque jour mention du fait qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir apprendre leur religion et de savoir avoir accès à des textes sur l'islam en français. Donc le Fonds de coopération Afrique est toujours actif, et il y a bien entendu proposé à la sortie de ce cours des boîtes dans lesquelles vous pouvez effectivement manifester votre soutien. Continuez à le faire, il s'agit de soutenir des millions de personnes et non pas quelques personnes quelque part dans le monde, mais c'est un continent dans son entier, en particulier dans la région francophone, qui nécessite notre soutien. Deuxième chose que je voulais vous rappeler, c'est que vous avez reçu le bulletin de présence musulmane, et le bulletin de présence musulmane est maintenant constitué de trois parties. Toujours le texte qui est lié à un travail sur le cœur, une réflexion de cœur, mais surtout le texte de fond. Dans la deuxième partie, quand nous parlerons de l'islamophobie, vous avez finalement le texte qui est la synthèse de ce qui sera dit tout à l'heure, qui est présenté dans le verso du bulletin Présence musulmane. Quant à la première partie, celle du tafsir, il y a un petit encart à l'intérieur de Présence musulmane qui rappelle ce qui a été dit, les grandes lignes de ce qui a été dit dans le premier séminaire de formation et le premier tafsir, le premier commentaire du Coran, et puis qui expose les grandes lignes du second. Donc vous avez là un outil qui s'est voulu depuis le départ, un outil pédagogique qui vous permet à partir du cours d'avoir une trace écrite de ce qui a été dit et de rappeler ce qui a été dit dans le premier cours et de vous préciser ce qui va être dit dans le présent cours, Inch'Allah. Immédiatement, nous entrons maintenant dans la question de la conception de l'homme avec le tafsir de Surat al-Rum, les Romains, et en particulier les versets, comme il est indiqué, les versets 28 à 31. Il est important de se rendre compte, après le premier cours, celui sur lequel nous nous sommes arrêtés avec la conception de Dieu, la conception d'Allah en islam, qu'il y a une relation tout à fait singulière entre le tawhid, c'est-à-dire l'unicité divine, et la façon dont le Coran, dont Dieu dans le Coran nous expose la relation entre le tawhid et la conception de l'homme. C'est-à-dire que la façon dont l'homme est présenté, dans la façon dont la conception de l'homme est présentée, nous fait comprendre ce lien fondamental entre l'unicité de Dieu et la recherche dans le cœur de l'être humain, par le cœur de l'être humain, au moyen de la raison humaine, de cet être transcendant qui va donner sens à la vie et qui va donner sens, bien entendu, à la mort et à la vie après la mort. Donc il faut que nous comprenions ces deux éléments-là, et dans le passage que nous allons étudier aujourd'hui, le lien est manifeste. On part de la raison qui doit réfléchir à sa situation pour comprendre l'unicité, et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, peu à peu nous amène à la compréhension profonde de notre être. Donc la compréhension du tawhid précède, mais complète et est complétée également par la compréhension de la conception de l'homme en islam. Et cette conception de l'homme en islam est tout à fait singulière. Malheureusement, dans les débats interreligieux, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Nous passons immédiatement à des concepts comme l'unicité de Dieu, comme le fait de la prière, le fait de l'adoration. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce qui constitue l'être humain, à ce qui fait l'être humain, et qui en fait détermine la spécificité, une des spécificités de l'islam, et qui la distingue par exemple de la tradition grecque, nous y reviendrons, de la tradition chrétienne et de la tradition juive. Donc il y a une spécificité qu'il faut étudier pour savoir de quoi il est question quand nous abordons cette question. Alors nous commençons directement, Inch'Allah, avec le premier verset, celui de Surat al-Rum, le verset 28, et nous allons immédiatement aborder les deux premiers versets, 28 et 29. « Ba'da'ouzu billahi minash shaitan ar-rajim » بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Il vous a proposé, il vous a exposé une parabole tirée de vous-même. Avez-vous parmi vos esclaves des associés qui partagent les biens que nous vous avons accordés, en sorte que vous soyez tous égaux, c'est-à-dire que vous soyez égaux, que vous les craigniez comme des êtres qui sont à égalité avec vous dans vos biens? Les craignez-vous comme vous vous craignez mutuellement? Voilà comment nous exposons les signes à un peuple qui comprend, à un peuple qui réfléchit. Les injustes, au contraire, suivent leur passion sans savoir. Qui donc dirigera ceux que Dieu égare? Ils n'ont personne pour les secourir. Ils n'ont personne qui soit et qui les fasse être du nombre des victorieux. Premier élément ici, comme je le disais tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire accéder intellectuellement en fait à la dimension du pouvoir total du souverain Dieu, de l'unique. En prenant l'exemple, parmi les êtres à qui il s'adresse, alors à cette époque-là, il s'adresse, et là on comprend la dimension contextuelle de la révélation, il s'adresse à une société dans laquelle existe l'esclavage. Tout le message de l'islam est un message qui va nous faire dépasser l'esclavage pour y mettre un terme. Tout ce qui est le mode expiatoire de la faute en islam est par le fait de faire cesser l'esclavage. Mais au moment où le texte est révélé, il parle à des êtres humains qui ont, eux, et qui connaissent, eux, et qui expérimentent quotidiennement la dimension de cet esclavage. Et il est posé une question à ces êtres humains. Regardez combien il est important pour nous, quand nous lisons le Coran, de savoir comprendre le contexte de la révélation et tirer intellectuellement de ce contexte l'enseignement absolu. C'est bien ça l'absolu du Coran. Ce n'est pas que la lettre, elle est absolue. C'est que la révélation dans un contexte historique pousse l'intelligence à tirer un enseignement absolu. Quel est-il cet enseignement? Il est ici extrêmement clair. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens qui connaissent l'esclavage, est-ce que ceux qui sont vos esclaves ont dans votre cœur et dans votre intelligence le même poids que ceux qui sont à égalité avec vous dans la société dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous les craignez dans leur possession, dans leur pouvoir, autant que vous pouvez vous craindre vous-même? Implicitement comme explicitement, la réponse est non. En d'autres termes, jamais l'esclave, jamais celui qui est sous la domination de ou sous l'autorité de n'est craint par celui qui a l'autorité de la même façon, n'est craint de façon égale. Et c'est ce qui est ici le sens de la parabole. La parabole, qu'est-ce que c'est? C'est une image, c'est une allégorie, c'est une image dans laquelle qu'Allah SWT la propose à l'intelligence des hommes pour que ceux-ci en extraient l'enseignement, le principe absolu, c'est-à-dire atemporel, au-delà du contexte historique, pour que celui-ci demeure dans la conscience humaine éternellement. Et la parabole est donc ici jamais l'esclave. Jamais avez-vous parmi vos esclaves des associés qui partagent des biens. Jamais ceux qui sont des esclaves ne partagent à égalité les biens du maître. Et de la même façon donc, jamais Dieu, maître souverain, absolu et unique, el-ahad, c'est-à-dire l'unique, samad, l'absolu, celui qui n'a pas d'associé, jamais il ne peut être comparé. Il ne peut craindre ou avoir à être comparé à ceux qu'il a lui-même créés, à ceux qui sont les esclaves au sens premier de sa création. Et donc, premier enseignement qui rappelle l'unicité absolue de Dieu qui ne craint aucun autre être dans son unicité, eh bien, cela est tiré d'une expérience sociale de l'époque, celle de l'esclavage, qui va faire accéder l'intelligence de ceux qui reçoivent la révélation, accéder par l'intelligence au sens de l'unicité. En sorte que vous soyez tous égaux, donc il n'y a pas d'égalité dans l'unicité. Et regardez la dimension de la crainte ici, c'est-à-dire la crainte de l'autorité, car la relation avec Dieu, elle est mêlée de cette crainte de l'autorité, à laquelle va s'ajouter bien sûr l'amour, l'amour dans la foi qui est amour, mais cet amour qui n'est jamais arrogance et qui doit toujours se nourrir de cette humilité, de cette crainte dans l'amour, comme on sait également aimer et craindre ses parents. Il faut savoir aimer et craindre l'autorité suprême. Eh bien, regardez, à partir de cette parabole, l'intelligence accède à ce sens de l'unique, et il est ajouté tout de suite, voilà comment nous exposons les signes à un peuple qui comprend. Et immédiatement ici, la mention, لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يَعْقِلُونَ مِنَ الْعَقْلِ, c'est-à-dire de l'intelligence. Accéder au sens du tawhid par l'intelligence, mais ça ne suffit pas. Nous l'avions vu d'ailleurs avec l'exposé du tawhid, ici nous partons de l'humain qui va vers l'unique. Et il y va par l'intelligence, mais ce n'est pas tout. Avant l'accès ici, qu'est-ce qui va venir perturber cet accès à l'intelligence, par l'intelligence, à l'unique? Deux choses. Ceux qui ont été injustes. Regardez comment le terme injuste ici intervient. Injuste, c'est-à-dire injuste vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis finalement de leur propre intelligence. Comment peut-on devenir injuste avec soi-même? Ils ont suivi leur passion. En d'autres termes, ce qui va venir être le premier perturbateur à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre cœur et dans notre propre être, de la dimension de l'unique, ce sont les passions, ce sont les émotions non maîtrisées, ce sont ces différents amours. Quand notre cœur n'est pas empli de l'unique, il est empli de mille autres choses. L'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour de soi. D'abord, l'amour de soi. Le premier obstacle à l'accès intellectuel et spirituel au divin est le propre amour que je me porte, que je porte à moi. Et ensuite, à mille et une choses qui sont liées à la vie d'ici-bas, et en particulier, bien sûr, le polythéisme. Ici, c'est de l'injustice, c'est-à-dire de ne pas rendre à son intelligence et à son cœur la pureté première, et être parasité par cette passion. D'autres termes, donc, le cheminement qui nous mène à Dieu, qui peut passer par l'intelligence, trouve cet obstacle de la passion. Et finalement, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'homme dépasse la passion pour retrouver la pureté d'une intelligence qui accède au tawhid, qui accède à Dieu l'unique? Le secret est ici, c'est le cœur. C'est le cœur et le retour au cœur qui fait dépasser en l'homme l'obstacle de la superficialité des passions pour retrouver la pureté intellectuelle ou la pureté du raisonnement qui nous amène à Dieu. Et c'est ici ce qui est mis en évidence, qui donc dirigera ce que Dieu égare. « فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ » D'où est-ce que Dieu, justement, finalement, pousse les gens à s'égarer? Eh bien, dans leur cœur. Et ils n'auront pas alors de personne, ils n'auront pas ils n'accéderont pas à la victoire. En d'autres termes, nous avons finalement cette construction, certes oui, par une réflexion sur les signes de Dieu, sur la tasse sociale, sur le sens même de la relation que nous avons à l'époque de l'esclavage avec un esclave, on peut comprendre que Dieu n'a pas d'associé. Mais quelque chose vient parasiter cet accès intellectuel au sens du tawhid, et c'est la passion, c'est el-hawa, c'est-à-dire tout ce qui vient se mettre dans la périphérie, à la périphérie de notre être, pour nous empêcher l'accès à une rationalité et finalement l'accès à notre cœur. Et le seul être qui puisse nous mener à cette pureté du cœur, à cette spiritualité, est Dieu. En d'autres termes, par l'intelligence, nous pouvons aller à Dieu seulement et seulement si nous avons compris que nous avons besoin de Dieu pour revenir au cœur de l'intelligence. C'est finalement comprendre qu'il nous a donné les moyens d'aller vers lui, mais que nous ne pouvons pas nous passer de lui. Ce qui s'appelle le besoin de lui, le besoin de Dieu en nous. D'où cela vient-il? Et cela vient maintenant dans le verset qui suit. Et là, nous comprenons la relation fondamentale qu'il y a en islam, entre le tawhid et la conception de l'homme. Le verset, de ce point de vue, 30, de cette sourate 30, est capital et fondamental, où il nous est dit ceci: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ici, nous avons un verset fondamental où il nous est dit ceci: acquitte-toi des obligations de la religion en vrai croyant, en croyant sincère, et selon la nature que Dieu a donnée aux hommes en les créant. Il n'y a pas de changement, il n'y a aucun changement dans la création de Dieu. Voilà la religion, la conception de Dieu, de l'homme et du monde, immuable, mais la plupart des hommes ne savent pas. En d'autres termes, ici, nous avons ce mot ici qui vient immédiatement, essentiellement pour nous rappeler le sens de ce retour qui va nous permettre de dépasser la passion avec intelligence. Mais pour pouvoir avoir une intelligence qui observe les signes, qui voit les réalités, qui comprend le sens du tawhid, il faut avoir un cœur qui revient à l'essence même de sa création. Et quelle est la source même? C'est cette fitra, l'aspiration naturelle, l'orientation, la recherche qu'il y a naturellement dans le cœur de chaque homme envers le transcendant. En d'autres termes, ce que nous dit notre religion, c'est que, et ça c'est une conception fondamentale en islam, c'est qu'il y a dans le cœur de tout être humain, de chaque être humain, une aspiration vers le transcendant, la recherche de quelque chose au-delà. Ce que Mircea Eliade dit après des recherches et des recherches et des années de recherche en histoire des religions, qu'il n'a pas rencontré une communauté humaine, une société dans laquelle il n'y ait pas quelque chose de spirituel, et il a fini par dire « le religieux participe de la structure de la conscience humaine ». C'est exactement ce que dit l'islam dès le fondement. En d'autres termes ici, acquitte-toi, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, reviens à la religion en croyant sincère, c'est-à-dire reviens à l'essence même de quoi? De ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu veux intellectuellement, spirituellement dépasser l'émotion, il n'y a qu'une seule voie, celle du retour à l'intérieur, à ce que Dieu a mis dans ton cœur au tout début. Quand il a dit wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum, quand Dieu a pris des reins d'Adam l'ensemble de la descendance et qu'il les a fait témoigner, alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre seigneur? Qalu bala, ils ont dit certes. Donc il y a en nous ce témoignage, un pacte originel qui est ce lien avec Dieu et auquel il faut revenir dans le retour à son propre cœur. Cette fitra, elle est essentielle, elle est ce sur quoi et l'état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a effectivement créé l'ensemble des êtres humains. Et le prophète عليه الصلاة والسلام de dire وما من مولود إلا ولد على الفطرة. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas été créé selon la fitra. كل مولود ولد على الفطرة. Tous les êtres humains, tous les enfants sont nés selon la fitra. Hatta yu'abbir anhu lisanu, jusqu'à ce que sa langue dise quelque chose de sa foi. Donc chaque être avant l'âge de raison est dans cet état de fitra, en fait de religion naturelle, de soumission naturelle à Dieu. Et Ce n'est que quand sa langue va pouvoir prononcer, c'est-à-dire quand il aura l'âge de raison, qu'il va devenir effectivement spécifier sa foi, soit chrétienne, soit juive, soit musulmane, soit autre. Mais nous sommes innocents et dans l'innocence de notre naissance, nous sommes déjà musulmans au sens où nous sommes déjà dans la fétra, dans cette aspiration naturelle. L'oiseau quand il vole prie, l'arbre quand il croit prie, l'être humain quand il naît jusqu'à l'âge de la raison est en état de prière permanente. C'est ce que le prophète Rasulullah m'avait dit aux compagnons qui s'en prenaient aux polythéistes en situation de guerre et qui s'en étaient pris un moment à des enfants. Il leur avait dit ne touchez pas aux enfants, ils sont dans l'état de fétra. Et dans cet état de fétra, ils sont meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que n'importe quel musulman qui essaye de revenir à Dieu. Eux, ils sont déjà avec lui. Et quand il est dit « Hatta yu'abbara anhu lisanu » Alors, le prophète salam, ajoute « Wa idha abbara anhu fa imma shakran wa imma kafura » C'est-à-dire que quand il le dit avec sa langue, c'est-à-dire qu'il a atteint l'âge de raison, soit il sera justement de ceux qui remercient Dieu, soit ils seront de ceux qui le nient. Donc, vous voyez que l'état naturel est un état qui est forcément dans la lumière de Dieu, forcément dans l'aspiration naturelle de Dieu. Et ici, donc, ce qu'on on peut tirer comme enseignement, d'abord, c'est qu'il n'y a pas d'élément négatif. Le corps, le souffle originel, la conscience, rien n'est négatif en soi dans la tradition musulmane. Ce n'est pas ça le négatif. Ce qui va devenir éthiquement, moralement négatif, c'est le choix de l'homme. فَإِذَا عَبَّرَ عَنْهُ لِسَنُ فَإِمَّ شَكَرًا وَإِمَّ كَفُورًا C'est-à-dire, quand son intelligence, quand il va pouvoir s'exprimer, là, il va pouvoir dire et mettre dans l'un ou l'autre de ses choix une dimension éthique, morale, négative ou positive. Mais originellement, nous sommes innocents, innocents et soumis. Soumis et dans la lumière du divin. La tradition musulmane, de ce point de vue-là, s'écarte de la tradition chrétienne au sens du péché originel et de la reconnaissance du péché originel, et s'écarte même de la tradition grecque qui pensait que l'âme était forcément bonne et le corps forcément mauvais, et que quand l'âme était dans le corps, il fallait que l'âme se libère de ce qui était mauvais. En islam, même le corps est bon si l'âme et le corps savent faire les choix du bien. Donc, innocence première, foi naturelle et retour à la nature de cette foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « La tabdila ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation ici dans la religion. Les savants l'ont compris différemment. Ne changez pas, ou dans deux sens, c'est soit il n'y a pas à changer la création de Dieu, soit elle est immuable, cette création est en elle. L'homme va rester ce qu'il est. Finalement, ce que dira au XXe siècle quelqu'un comme Jean-Paul Sartre qui dit « la condition de l'homme ». Si tant est qu'il reconnaissait une condition, mais l'homme dans son état n'a pas changé depuis l'origine. C'est ce que dit l'islam. Finalement, les questions resteront les mêmes, l'innocence restera la même, les choix seront toujours les mêmes et il faudra se déterminer soit en remerciant Dieu, soit en le niant. Voilà la religion immuable, celle qui n'est pas liée aux contingences de l'histoire, celle qui est ancré dans le cœur de l'homme. Et donc, on comprend maintenant, dans l'ensemble de ce processus, une dimension fondamentale. Ensuite, à la fin de ce verset, il est rajouté, mais la plupart des gens ne savent pas. En d'autres termes, finalement, c'est une espèce d'inconscience et un oubli et un parasitage de l'émotion qui font que les gens deviennent ignorants du sens fondamental de leur religion. En d'autres termes ici, ce que nous pouvons dire, si nous devons résumer l'ensemble de cette première, de ce passage, c'est que, premièrement, un appel de Dieu à l'intelligence humaine, observez comment vous-même vous vivez, quelles sont les conclusions que vous tirez de vos rapports sociaux, et vous verrez que dans votre non-partage de l'autorité quand vous êtes en situation d'esclavage, eh bien il y a non-partage de l'autorité du Dieu unique. Premier élément de l'intelligence. Mais attention, quand cette intelligence ne voit pas les signes, c'est que les émotions sont en train de parasiter. C'est que les émotions et les passions sont en train de troubler la vue sincère ou la vue des signes. Et donc, il faut dépasser les émotions et revenir au cœur de la foi, c'est-à-dire revenir à la source. Comment cela? Eh bien, par l'aide de Dieu lui-même, comprendre que le chemin de Dieu se fait vers Dieu, mais par Dieu surtout, et donc dans un rapport d'humilité, d'humilité fondamentale. L'humilité et l'innocence, voilà ce que dit l'islam fondamentalement. Savoir que l'on est innocent, savoir l'humilité de rester innocent, savoir l'humilité d'avoir besoin de lui pour préserver cette innocence, pour préserver cette vue naturelle. Et le deuxième élément ensuite, c'est qu'il faut revenir donc, pour dépasser l'émotion et le parasitage de l'émotion, à ce qui est ancré dans notre cœur fondamentalement, à savoir la foi en Dieu, à savoir cette aspiration naturelle, la fitra. Et la fitra, c'est cette aspiration naturelle qui va être confirmée par l'iman, c'est-à-dire la foi. La foi est une confirmation de cette aspiration naturelle de Dieu. La foi, c'est quand la raison vient confirmer l'aspiration naturelle. En d'autres termes, la raison n'est pas opposée à la foi. La raison vient confirmer la foi, comme la foi vient illuminer la raison, comme nous l'avons vu. Pascal avait dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. L'islam dit, le cœur a ses raisons que la foi. Le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Donc, ici, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme si on avait deux univers, et l'islam de dire, le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra, si seulement nous n'oublions pas de revenir à cette aspiration originelle, qui est fondée sur l'innocence première de l'homme. Tous les êtres sont créés selon la fitra. La nécessaire raison pour revenir à cette aspiration, c'est-à-dire l'innocence, la rationalité, l'humilité et la reconnaissance du divin. Voilà les perspectives qui ne mettent jamais le mal dans ce que Dieu a créé, mais toujours le mal dans ce que l'homme fait comme choix, c'est-à-dire que c'est l'homme dans ses choix qui est justement responsable de ce qui deviendra bien ou mauvais. Ce ne sont pas les éléments de la création. Et pour poursuivre la route, le verset qui suit servira comme conclusion où il nous est dit, après avoir été revenu à Dieu, « Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu min al-mushrikin » c'est-à-dire, revenez repentant vers lui, munibina ilayhi, venez repentant, c'est-à-dire, tout ce qui a pu vous faire vous éloigner, toute la superficialité de votre propre être, que ce soit votre orgueil, votre vanité, votre amour des biens, votre amour du pouvoir ou de l'argent, revenez à lui repentant, c'est-à-dire éloignez-vous de ce qui vous éloigne de lui, revenez à lui, c'est-à-dire d'abord un retour, munibina ilayhi, revenez à lui. Et puis tout de suite après, wattaquhu, c'est-à-dire ayez une conscience de lui, c'est-à-dire que la conscience, le retour d'abord, la conscience qui enracine ce retour est le dernier élément, waqimus salat, pour expliquer fondamentalement le sens de la prière ici. Le sens de la prière, c'est la confirmation d'un retour et de la conscience de Dieu. Ça n'est pas des gestes que l'on fait pour avoir l'impression simplement qu'on pratique extérieurement ou de l'extérieur notre religion. Non. C'est une pratique qui est la confirmation d'un cheminement intérieur, un retour à son cœur, une conscience de lui dans son cœur et une pratique dans notre temporalité, parce que nous avons tendance à oublier. La prière, c'est se donner les moyens de corps, d'intelligence et de cœur de ne pas oublier de revenir à son cœur. C'est finalement ça le sens de la prière. Et dhikr, c'est ça le rappel. Et puis, ne soyez pas au nombre des associateurs. En d'autres termes, revenir à son cœur, emplir son cœur de Dieu, pratiquer la prière, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans tout type de polythéisme. Et le polythéisme contemporain est encore plus dangereux que le polythéisme d'antan. Le polythéisme d'antan avait cette capacité d'être visible, cette qualité d'être visible. On voyait les statues, on savait ce que l'on ne voulait pas. Le polythéisme d'aujourd'hui est insidieux, il est invisible, il nourrit nos cœurs, il est à la fois l'amour que l'on peut porter à des choses qui sont éphémères, à des idoles des temps modernes, à n'importe quelle idolâtrie réelle qui fait que nous adorons autre chose que celui que nous devons adorer et qui seul finalement, dans l'adoration que nous lui portons, peut nous libérer de nous-mêmes. Parce que entrer en Dieu, vers Dieu, dans la paix, c'est finalement se libérer de soi et trouver une liberté en lui qu'aucun être humain sur la terre ne peut nous donner, aucune société ne peut protéger, aucun ordre ne peut organisé. C'est finalement se soumettre dans la paix pour être libre parmi les hommes, libre dans la foi. C'est ce cheminement que nous propose le Tawhid et nous voyons bien maintenant combien il y a une relation fondamentale entre l'expression du Tawhid, l'unicité de Dieu, et le retour dans son cœur, la conception islamique de l'homme qui dit le cœur, qui dit la foi, qui dit la nécessité de la raison, mais qui dit la nécessité fondamentale d'être humble devant Dieu pour savoir avec sa foi mieux utiliser sa raison, inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.